Info rapide. On est de plus en plus nombreux et nombreuses en tant que freelance et entrepreneurs solo à ne plus en pouvoir des discours entrepreneuriaux qui prônent la croissance, les 6 chiffres annuels, le fait de toujours en faire plus et plus et plus. On cherche des alternatives, d'autres manières d'entrevoir l'aventure entrepreneuriale et le fait de développer nos business, mais malheureusement, la plupart des offres d'accompagnement, de coaching ou de formation sont encore uniquement dans un prisme croissance business. En ce moment, on est en train de faire, comme chaque année, notre période de recrutement pour les 30 personnes qui rejoindront la promo de notre programme Surf. Le programme Surf, c'est un programme d'accompagnement sur 2 ans, donc pensé pour le temps long, pour t'aider à passer un cap dans ton aventure entrepreneuriale et ton business freelance, mais pas seulement sur le business. Notre pédagogie, elle repose sur 3 piliers. Le business, bien sûr, nous sommes des entrepreneurs et on veut développer nos entreprises. Le développement personnel, ce qu'on préfère appeler nous l'épanouissement individuel, parce que dev perso, c'est un terme qui a une connotation de moins en moins sexy. Donc tout le travail sur toi, la personne, être épanoui dans ton travail. Et le 3e pilier, c'est ce qu'on appelle la pensée systémique. C'est entrevoir le business en prenant en compte des sujets sociétaux hyper importants, comme l'écologie, le féminisme, la justice sociale, etc., etc. Cette liste est longue. Et donc, ce qu'on accompagne les gens à faire dans le programme Surf, c'est avancer dans leur processus et leurs projets entrepreneuriaux sans sacrifier leur épanouissement individuel et en prenant en compte les enjeux les plus importants de notre civilisation humaine. Si tu penses que ça peut te correspondre et que tu veux faire partie d'un groupe de gens qui te ressemblent pour un accompagnement sur le long terme avec 2 coachs à tes côtés, peut-être que le programme Surf est fait pour toi. Pour le savoir, je t'invite à te rendre sur surfenfreelance.com. Je répète, surfenfreelance.com, et tu peux prendre un appel avec nous et notre équipe pour en savoir un peu plus. Les portes sont ouvertes en ce moment. J'espère avoir l'honneur de te compter parmi les membres du groupe de cette année. Et sur ce, bonne écoute de l'épisode. Salut à toi, et bienvenue sur Young, Wild and Freelance, le podcast pour ta vie d'indépendant. Je m'appelle Thomas Burbidge et chaque semaine, je t'accompagne dans tes réflexions sur ta vie et ton activité de freelance en t'emmenant avec moi à la rencontre de ceux qui marchent aussi sur le même chemin que toi. Si tu me suis depuis un moment, tu sais sûrement à quel point je suis passionné par la compréhension de comment nous, petits êtres humains, fonctionnons face à tout ce qu'on peut traverser comme épreuve et comme événement dans nos vies. Et sur ce chemin de recherche et de compréhension, évidemment, je me suis très vite intéressé au coaching et les méthodes d'accompagnement du métier de coach. Et ça aussi, vous l'aurez sûrement vu, le coaching est un métier très en vogue en ce moment. Et pour beaucoup d'entre vous, ce mot veut absolument tout et rien dire. Et comme tout nouveau métier, le métier de coach reste encore aujourd'hui assez incompris de la majorité des personnes. Certains voient ça comme une révélation, quelque chose dont tout le monde devrait disposer, alors que d'autres pensent que c'est en quelque sorte une destinée de charlatan. Et du coup, dans cet épisode, j'ai voulu décortiquer une bonne fois pour toutes ce qu'est vraiment le coaching, notamment dans le cadre d'une activité professionnelle. Et pour ça, j'ai invité Aline Bartoli, la créatrice fondatrice de The Bee Boost, à venir discuter avec moi. Et dans cet épisode ensemble, on se plonge dans ce à quoi ressemble véritablement une méthodologie de coaching, et Aline nous partage la sienne, la déontologie et les principes de base derrière ce métier de coach, et même tout ce que Aline partage là sur sa méthodologie, tu vas pouvoir te l'appliquer à toi, ses raisonnements, ses réflexions, ses exercices, dès la fin de l'épisode. Aline m'a également partagé ses 3,5 méthodes préférées pour trouver ses premiers clients, un sujet qui revient régulièrement dans ses coachings à elle, avec ses coachés. Et on a évidemment beaucoup parlé par la suite de marketing et de comment se différencier quand on est freelance. Bref, un épisode avec beaucoup de choses passionnantes à te partager. Donc laisse-toi aller, fonce directement dans l'épisode et on se retrouve à la fin pour débriefer. Bienvenue sur le podcast, Aline.
Merci Thomas.
Je suis content de t'avoir, ça va apporter un peu de rire et de jovialité. Pas comme s'il n'y en avait pas d'habitude, hein, mais...
Pour les autres.
On est tous des vieux, chiants. Non, je rigole, mais je sais que tu es pas... T'as particulièrement cette approche dans tes contenus de dire je veux que ce soit motivant, que ce soit cool, que les gens s'amusent, tu rigoles beaucoup. Et ça fait partie de toi et de ce que t'apportes aux gens et de ce pourquoi on vient te chercher, j'ai l'impression aussi. Donc je suis très très content qu'on soit dans cette ambiance-là aujourd'hui. La première question rituelle du podcast, tu la connais parce que je te l'ai communiqué, mais c'est ce qui nous permet un peu de poser le contexte et de rentrer dans le bain. Et c'est celle-ci, c'est comment et pourquoi, surtout pourquoi, tu es devenue indépendante ?
Parce que je ne me suis jamais posé la question, en fait. J'ai toujours voulu être indépendante.
Ok.
Voilà, quand j'étais en maternelle, la maîtresse d'école, elle disait qu'est-ce que vous voulez faire plus tard ? Moi, j'étais chef d'entreprise. Je savais pas quelle entreprise, mais je savais que je voulais être chef d'entreprise, quoi.
Putain, c'est ouf, genre dès la maternelle, vraiment.
Dès la maternelle. Après, si je dois parler un peu de l'histoire, moi, j'ai un père qui est entrepreneur, donc il nous a toujours élevés en mode l'entrepreneuriat, c'est mieux que le salariat, etc.
Okay,
faut pas être salarié, le CDI, c'est le mal. Quel parent dit ça ?
Putain, c'est incroyable.
Et du coup, c'est vrai que j'ai grandi là-dedans et j'en ai jamais démordu.
C'est fou. Parce que c'est clair, je pense que c'est pas du tout l'état d'esprit qu'on nous inculque, surtout en France. Quand on est jeune, de se dire ouais, faut être entrepreneur, faut monter sa boîte, faut monter son projet, c'est plutôt la direction genre très sécurité, salariat c'est bien, c'est stable, qu'on nous inculque, quoi. C'est ouf, dès la maternelle, quoi.
Dès la maternelle.
Parce que j'ai écouté ton premier épisode de podcast où tu disais je rêve d'être. Alors attends, je vais essayer d'avoir le nom juste. C'est Miranda Priestly.
Ouais, bravo.
Qui est, pour ceux qui ne connaissent pas, la directrice éditoriale du magazine dans The Devil Wears Prada.
Le diable s'habille en Prada.
Le diable s'habille en Prada pour les Français. Et du coup, tu disais dans cet épisode que cette femme, par son espèce d'aura entrepreneuriale, t'inspirait énormément.
Exactement. Et puis c'était même, tu vois, on parlait de vision de tout à l'heure.
Ouais.
La vision d'une nana avec ses talons aiguilles qui marche et ça fait clac, 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 et qui va dans son super bureau en verre au bout.
Ouais.
Je me dis, ah ouais, c'est ça.
C'est ça. Vois, et dès la maternelle, tu savais que tu voulais avoir ce côté un peu woman boss, quoi.
Exactement.
Trop drôle. Et du coup, comme tu savais que tu voulais depuis toujours te lancer, c'est quoi le truc qui a fait... est-ce que genre dès la fin de tes études, boum, tu te lances, tu deviens indépendant direct ? C'est quoi un peu les cheminements qui te sont arrivés, emmenés à où t'en es aujourd'hui ?
Ben en fait, j'ai même pas terminé mes études.
Okay.
C'est genre un an avant d'avoir mon diplôme. J'ai déjà passé un premier diplôme, un an avant d'avoir le deuxième. J'en ai eu marre d'avoir les fesses posées sur un banc d'école.
Ouais.
Et je me dis, mon rêve, c'est d'aller à New York. Je me barre à New York. J'ai pris mon sac à dos, j'y suis allée un an. J'ai trouvé un job de freelance là-bas en retoucheuse pour photos pour un magazine de mode.
Ok.
Et puis quand je suis rentrée, je me suis mise à mon compte.
Et t'as continué de faire ça, la retouche, en France ?
Exactement, okay. Exactement.
Aujourd'hui, t'es coach business. C'est à quel moment, du coup, où tu te dis, je suis freelance, je fais de la retouche, et maintenant j'ai envie de transitionner dans ce nouveau modèle qui est du coup le coaching business. C'est quoi le moment où tu t'es dit que t'as envie de basculer dans ce nouveau truc ?
Alors, il s'est passé deux choses en même temps. La première, c'est que je commençais à en avoir marre de la retouche, même si j'adore ça, j'adorais la technique. Le fait de me dire, je contribue à une société de consommation,
ouais,
sur l'image de la femme,
ouais,
etc. C'était pas top, j'y voyais pas trop de sens.
Ouais, c'est intéressant, ouais. Je pense qu'il y a pas mal de photographes qui, ouais, aujourd'hui, font la réflexion inverse, de dire comment j'utilise mon métier au service d'autre chose, parce que les photographes font sûrement aussi de la retouche. Mais du coup, c'est vrai que toi, t'as pris l'angle de j'arrête ce métier-là, quoi.
Bah complètement, parce que j'avais le blog Bibous, il commençait à bien fonctionner,
okay,
et que là je me suis vraiment sentie connectée à ok, moi je kiffe l'entrepreneuriat de ouf et je peux transmettre ça aux autres, il y a de la demande, allez go, on y va, quoi.
Ok, donc c'était l'élan de contribution en fait qui t'a fait switcher, quoi.
Exactement.
Ok, et ce que j'avais envie de faire avec toi dans cet épisode, c'était un peu déconstruire les idées reçues et l'image qu'on peut avoir du coaching, parce que c'est un métier très en vogue. Il y a énormément de coach ou de simili-coach ou de mentor ou de peu importe les autres mots qu'on utilise, qui se lancent sur le marché à tous les âges avec tout type d'expérience. Et je pense que les gens ne savent pas ou plus ce que c'est vraiment le coaching. Et j'avais envie qu'ensemble, on essaie de
de déconstruire ce que les gens peuvent se dire en montrant ce que c'est vraiment un coach et vraiment le coaching en tant que tel. Et pour ça, l'exercice que j'avais envie qu'on fasse, c'était qu'on imagine une sorte de situation fictive où quelqu'un qui les écoute pourrait se retrouver dans un profil et qu'on construise ensemble ce serait quoi une méthodologie d'accompagnement de coaching pour ce type de personne. Et du coup, qu'on montre pour les gens qui nous écoutent et qui nous regardent, c'est quoi les différentes étapes successives par lesquelles on passe dans un coaching et comment ça nous aide à développer notre activité. Ça te va comme exercice ?
Ça va très bien. Petit disclaimer, je vais le faire à ma sauce.
Ouais, bien sûr.
J'ai ma propre méthode.
Le premier point de différenciation du coup sur le coaching, c'est qu'il n'existe pas une seule méthode prouvée et reconnue que tout le monde utilise, mais des outils qui permettent de créer des méthodologies personnelles, comme dans n'importe quel métier en fait, au final.
Il existe quand même une méthode avec des compétences très particulières pour être coach certifié qui, par le fameux ICF, qui est l'organisme mondial du coaching. Donc les vrais coachs puritains certifiés me pardonneront ce qu'on va faire pendant cet exercice.
Ok, parce que toi, du coup, t'as ta formation de genre coaching reconnu, certifié, etc. Mais depuis, t'as adapté ta méthode ?
En fait, je mélange pour m'adapter aux besoins des entrepreneurs parce que le vrai coaching, si je le fais très rapidement, on ne donne pas de conseils. On n'a pas le droit de donner de conseils. On est juste là pour poser les bonnes questions, pour aider la personne à trouver ses réponses.
S'auto-accompagner soi presque.
Exactement. Parce que comme je te disais, on part du principe que c'est le coaché qui est expert de sa propre vie et de ce qu'il sait faire, ce qu'il ne sait pas faire. Donc, ce n'est pas nous lui dire à travers notre filtre à nous quoi faire.
Ouais. Et toi, tu as intégré à ça des réflexions plutôt business de comment je développe ma clientèle, de comment je mets en place des stratégies très concrètes sur la création de contenu et tout ça. Voilà. Et tu lis les deux dans la réflexion, quoi.
Exactement. Moi, j'intègre des éléments un peu plus de mentorat.
Ouais.
Parce que si mon client me dit, ouais, je vais sur TikTok, ça va être trop cool, alors qu'il vend des pompes funèbres, tu vois, je vais pas lui dire, penses-tu que ce soit une bonne idée, tu vois? Je vais lui dire, non, pas bonne idée, arrête.
Ouais, regarde, stop, cours.
Voilà. Donc, en fait, on mélange vraiment le coaching pour la durée et le mentorat.
Ce qui est intéressant, parce que c'est un peu aussi la démarche que j'avais envie d'avoir, parce que je suis pas coach, j'ai pas fait de formation de coaching. Le seul contact que j'ai avec ce monde-là, c'est que je me fais coacher, je me suis fait coacher, je suis beaucoup de gens qui sont coachs, et j'adore observer leur méthodologie de travail, les questions qu'ils posent. Je suis beaucoup de gens qui sont des très grands coachs mondialement reconnus, et j'adore essayer de me mimiser dans leur monde et de comprendre leur fonctionnement. Du coup, j'ai pas du tout la formation ni quoi que ce soit, mais je commence à intégrer petit à petit des réflexions de ça dans ma manière de faire les choses, qui, ma manière, elle est beaucoup plus sur le mentorat, effectivement, de partager les expériences du terrain que j'ai et d'intégrer dans ça des questionnements sur soi, utiliser des questions de plus en plus et de moins en moins de « tu dois faire exactement comme ça ». Parce qu'effectivement, genre, moi, je connais pas les gens et je peux pas, à la place de quelqu'un, me dire voilà ce qu'est la bonne chose, elles doivent se le dire pour elles, mais du coup, c'est vraiment ça que je vois comme la puissance d'un bon coach, c'est de poser exactement la bonne question et les bonnes questions dans le bon ordre pour que quelqu'un puisse avoir des changements de... genre changer sa manière de voir les choses et changer sa réalité, des prises de conscience pour qu'elle avance et qu'on mette en place les bonnes actions au bon moment, quoi. Et moi, il y a un truc qui me passionne sur le sujet et je t'invite à nous partager un peu ta vision de la chose si t'as une vision sur ça, c'est le reframing. Je sais pas du coup si tu vois ce que c'est ce bon vieux terme anglais parce qu'il y a plein de termes pour ouais, ça te parle?
Alors, je l'ai jamais entendu, mais j'imagine ce que tu mets derrière, mais je veux bien que t'expliques quand même pour être sûr que je me trompe pas.
En gros, pour le reframing, c'est comment est-ce que tu aides quelqu'un à changer sa posture et son regard sur un événement? C'est-à-dire, changer mon cadre de référence sur
ce
que je vois.
C'est exactement ça.
Okay. Du coup, c'est un bon vieux terme anglo-saxon que j'utilise, mais il y a peut-être d'autres. C'est quoi, du coup? Parce que ça, c'est un outil très utilisé dans le coaching. Tu peux nous en dire un peu plus avec ta vision de la chose, du coup?
Effectivement, on parle de changer un cadre de référence. Et c'est très, très bête. Et là, je m'adresse aux gens qui nous regardent. Mais on part du principe que pour trouver une solution, si vous ne l'avez pas déjà trouvée par vous-même, c'est qu'elle n'est pas dans votre zone de confort, elle n'est pas dans votre cadre de référence actuel. Donc, le but du coach, c'est de prendre le recul et de dire « Ok, je pense que c'est plutôt dans cette direction-là, en dehors de ta zone de confort, en dehors de ton cadre de référence, et je vais te poser les bonnes questions pour t'en faire sortir au fur et à mesure. »
Et du coup, en dehors de ton champ de vision.
Exactement.
Aussi, en fait. Parce que les gens, on regarde en général ce qu'on regarde depuis toujours et ce qu'on voit, mais il y a des choses qui sont juste là, en dehors de ce qu'on peut voir, qui sont la solution et qu'on n'a pas identifié, quoi. Et du coup, le rôle du coach, ce serait aider la personne à élargir son champ de vision, à changer de regard, etc., pour trouver ces solutions qui sont déjà là, mais pas identifiées.
Exactement.
Super intéressant. Du coup, pour rentrer dans l'exercice, le type de profil que j'avais envie de prendre, c'est un jeune freelance qui se lance, en tout cas jeune dans l'expérience indépendante.
Un baby freelance.
Un baby freelance qui sorte d'entreprise ou qui soit junior, qui sorte d'école, peu importe, mais qui se lance à son compte. Mmh. Cette personne, elle a une expertise, elle a un savoir-faire, un truc qu'elle veut revendre. Et ses premiers questionnements, du coup, c'est comment je trouve des clients, etc., etc. Si tu recevais cette personne pour un coaching, c'est quoi les premières questions que tu lui poserais et c'est quoi les différentes étapes qu'on pourrait structurer pour accompagner cette personne?
Waouh.
J'avais dit que ça allait être challengeant. Hein.
Ouais. C'est challengeant parce qu'effectivement, tu ne résous pas tout ça en une séance de coaching. Mais c'est intéressant.
Pas forcément une séance.
D'accord.
Pour l'exercice, on a séance limitée.
Ah, ok. Séance limitée.
Séance limitée, budget limité. C'est parti.
On va se faire plaisir, là. Bah écoute, je vais te dire comment je travaille avec mes clients parce que ce que tu viens de décrire, c'est exactement les gens qui me contactent.
Ok.
Tout le temps. Donc en fait, on va faire un premier appel ensemble.
Ouais.
Où on va poser les bases et on va débroussailler le terrain. Et là, je vais leur poser des questions hyper spécifiques. Et j'utilise pour ça un outil, si tu veux les outils, qui s'appelle le SCORE. Donc SCORE, c'est l'anagramme pour symptômes, objectifs, causes, ressources et environnement.
Okay.
Donc en fait, là, on va diagnostiquer à la fois le business ou le début de business, le projet de business et la personnalité. Donc symptômes, c'est qu'est-ce qui te pose problème en ce moment?
Ouais, qu'est-ce qui fait que t'es pas où t'as envie d'être?
Voilà. Cause, c'est à ton avis, d'où ça vient et à quoi c'est dû. Et okay. Déjà là, on rentre dans une démarche de coaching.
Ouais, intéressant. Il y a des gens qui vont dire... je connais pas le marketing, j'ai peur d'appeler, démarcher des clients,
voilà.
C'est comme ça. Okay.
Et donc déjà là, tu leur demandes de prendre du recul sur juste, je trouve pas de client, mais sur pourquoi je trouve pas de client.
Hyper
déjà
intéressant
là, déjà là, tu changes le cadre de référence.
Hyper stylé.
Objectif, où est-ce que tu te vois dans 3 mois,
ouais.
Dans 1 an, dans 5 ans.
Concrètement, avec les méthodes d'objectif.
On commence à parler de vision.
Oui.
Après les ressources, quelles sont tes ressources pour arriver à ton objectif? Les ressources en termes de compétences, de temps, des ressources financières, des ressources mentales, et aussi tes ressources au niveau énergie. Et ensuite, on va passer à l'environnement. Ton environnement, tes proches, est-ce qu'ils te soutiennent ou pas? Où est-ce que tu travailles? Dans un environnement législatif ou administratif, est-ce que tout est prêt, etc. Donc ça va être mes premières questions que je vais poser.
C'est hyper intéressant. Je pense déjà, rien que ça, pour les gens qui écoutent, qui peuvent faire ce travail, de prendre une feuille et de poser ces éléments, ça donne... un contexte, en gros, ça te pose les briques du problème, en fait. Et ça te permet de commencer à construire des solutions parce que, comme tu le dis très bien, quand t'es dans le guidon de ton problème et t'es là et tu rumines, forcément, tu vois pas les réponses parce que t'es seulement en train de regarder le problème et à quel point ça te fait chier. Là, je trouve que tu prends une distance. Trop cool. Donc ça, c'est le premier appel avant même que la personne décide
appel
de se faire coacher.
Okay. Ouais. Appel découverte. Donc, à la fin... La personne, je dis, ok, maintenant, tu prends 24 heures. Et j'impose 24 heures avant de prendre la moindre décision de bosser avec moi ou pas.
Ouais.
Pour laisser, c'est ce que j'appelle la théorie du soufflet, laisser le soufflet retomber et pas prendre une décision en mode, ouais, pump it up, ça va être trop cool, on va bosser avec Aline, mais vraiment avoir le recul, en parler, ça va.
Ouais, avoir une décision alignée, quoi.
Exactement.
C'est un truc que je trouve intéressant parce qu'effectivement, les méthodologies de l'urgence sont bien sûr un outil très puissant pour l'entrepreneuriat et le marketing. Et je pense même important pour les gens, parce que beaucoup trop souvent, et j'imagine que les gens qui écoutent vont se reconnaître là-dedans, il y a une opportunité, mais elle nous fait quand même peur. Et on se dit, je vais prendre le temps de réfléchir, et on repousse pendant 1 semaine, 3 semaines, 3 mois, et au final, on passe jamais à l'action. Alors que ça se trouve, c'était le meilleur truc pour nous. Mais je trouve que ce qui est intéressant, effectivement, c'est laisser le temps de prendre une décision alignée, mais quand même mettre un cadre de temps potentiellement avec une opportunité intéressante pour que la personne ait une limite, pour qu'elle soit poussée à vraiment prendre le temps de réfléchir. Parce que sinon, on ne prend pas le temps de réfléchir, en fait.
C'est ça.
Du coup, intéressant ce double truc de « oui, il ne faut pas que tu prennes la décision maintenant dans l'excitation. Il faut que tu sois aligné et que tu aies réfléchi.
Mm-hmm.
Mais par contre, je ne te laisse pas le choix que de réfléchir pendant 3 mois parce que sinon, tu ne vas pas réfléchir. Mais prendre le temps de faire en 24 heures, comme tu dis, par exemple... se poser, réfléchir et vraiment réfléchir, en fait. Et vraiment se demander qu'est-ce qui me va.
Mais en fait, je leur laisse le temps illimité.
Ah ouais?
Ouais, vraiment.
Et c'est intéressant.
D'expérience, les gens qui étaient partants, ils m'ont jamais fait, moi.
Ouais.
Mais je suis d'accord avec toi sur le fait qu'en marketing, c'est le fameux FOMO, là.
Oui.
C'est hyper important, cette théorie de l'urgence. Mais quand j'ai fait cette analyse sur mon business et que je me suis dit comment moi je voulais mener mes entretiens découvertes par rapport à mes valeurs à moi, il est hors de question de jouer là-dessus pour une démarche aussi importante que le coaching.
Ouais, je comprends.
Donc c'est pas quelque chose qui est marketing. Peut-être que je me tire des battes dans le pied comme ça, mais je reste alignée avec mes valeurs.
Ouais, c'est intéressant. Parce que moi, du coup, je l'utilise dans certains formats.
Mm-hmm.
Et je suis vraiment convaincu, parce que je l'ai observé des centaines de fois, surtout chez les freelances, qui forcément, tu vois, les freelances, j'ai l'impression qu'il y a des grosses peurs sur l'argent quand même, et oui, des bonnes grosses relations à l'argent à bien déconstruire. Et je me suis rendu compte qu'en fait, parfois c'était davantage à leur service de leur dire, voilà, là je te propose ça, t'as 48, 72 heures, t'as un temps pour y réfléchir, ne décide pas forcément maintenant, prends le temps, mais par contre, prends-le vraiment ce temps, genre réfléchis pour de vrai, tu vois. Et je suis à un point où je me dis, c'est davantage à leur service de vraiment les faire réfléchir, quitte à ce qu'ils disent non, hein, parce que c'était trop court, mais je veux qu'ils aient vraiment réfléchi, plutôt que de leur dire, t'as temps illimité, parce que j'ai observé trop de fois que les gens disaient, ouais, je vais réfléchir, et réfléchissaient pas vraiment, en fait. Et à chaque fois, quand j'ai des appels avec les gens à qui on a mis cette urgence, entre guillemets, et qui me rappellent, genre, un jour après, deux jours après, ils me disent merci, parce que du coup, j'ai vraiment compris ce qu'ils étaient importants pour moi maintenant, et j'y avais pas réfléchi avant. Et du coup, c'est, tu vois, même les gens qui me disent non, ça les sert, parce que ça les aligne avec ce qui est important pour eux, tu vois. Et je pense que le risque qu'on pourrait avoir, c'est de se dire, c'est marketing, donc c'est mal et c'est pas à leur service, alors que dans certains cas, ça peut vraiment être à leur service que de se poser ces questions. Et comme tu sais, il y a une grande part du travail que j'ai envie de faire qui est aider les gens à vraiment réfléchir à ce qui est important pour eux. Et s'il y a non derrière, parce que c'est ça qui est important pour eux, que de dire non et d'aller faire autre chose, génial, trop bien, j'ai fait mon taf, même s'ils n'ont pas acheté.
Mais tu les as forcés à verbaliser ce dont ils avaient besoin.
Exactement, et à intégrer cette réflexion sur soi, quoi. Bref, on a fait... C'était la parenthèse marketing.
Mais en plus, je pourrais en parler tout le temps en plus, parce que c'est vrai que moi j'utilise ça comme un outil de filtrage.
Ouais.
Je veux travailler avec des gens qui sont hyper motivés et surmotivés.
C'est intéressant aussi.
Et encore une fois, tes arguments sont valables, tout et comme les miens.
Complètement.
Et moi, c'est déjà un premier outil de filtre. C'est-à-dire que si t'as pas cette mentalité de dire oui, j'y go, on n'est pas fait pour travailler ensemble. Si t'es du genre,
clairement,
je vais réfléchir et puis tu reviens vers moi 3 mois après, ben, t'es peut-être pas mon client idéal. Quoi.
Ce qui est un apprentissage cool pour les gens qui nous écoutent au-delà de ce qu'on dit sur le coaching, qui est. Il n'existe pas une stratégie marketing miracle qui fonctionne à 100% pour tout le monde tout le temps.
Il faut être aligné avec soi-même.
Il faut trouver la sienne, quoi.
Exactement, il faut faire comme on le sent.
Boum. Petite clé. On reprend, du coup.
Ok.
T'as ce score, t'as le 24 heures pour réfléchir et les gens s'engagent. Ils s'engagent avec toi. C'est quoi la première brique de comment on va vers la résolution du problème?
Ok, donc il s'appelle Ferdinand. Le mec, il a 26 ans et il veut se lancer comme développeur web. Il veut bosser avec moi.
Ferdinand, donc, si tu les écoutes.
Voilà, Ferdinand, c'est le nom que j'ai donné à mon aspirateur robot. Donc du coup, j'adore maintenant.
Merde. Ferdinand, tu n'es pas un aspirateur robot.
Bon, allez, le pauvre. Ok, donc moi, ce que je vais lui dire pendant mon entretien de découverte aussi, c'est que je vais lui expliquer ma méthode de travail qui mélange, comme on disait, mentorat et coaching.
Ouais.
J'impose toujours les deux premières séances de coaching qui sont des séances de mentorat pur et dur. La première séance, c'est une séance sur le positionnement, la vision, le message, le pourquoi, etc.
Okay.
La deuxième séance, c'est le client idéal.
Okay.
Parce que je considère, personnellement, ça c'est ma vision, ma méthode, que les deux, c'est le pilier d'un business qui rapporte.
Je suis entièrement d'accord avec toi.
Et que quand tu connais les deux sur le bout des doigts et que tu travailles à la jonction des deux, là, tu peux bosser sérieusement sur ton business.
Ce qui est un peu ce qu'on disait dans l'épisode qu'on a
fait ensemble. Exactement ce qu'on disait dans notre épisode. Et qu'un business qui se rapporte et qui est aligné et qu'on peut tenir dans le temps, c'est ça.
Ouais.
Donc, quel que soit le niveau que Ferdinand il débute tout juste ou qu'il soit en business depuis 10 ans, on va refaire la repasse sur ces deux séances.
Je pense que ce que j'ai vu et observé, et j'en parlais dans ma conférence récemment là aussi, du client idéal et ce travail-là, c'est que les gens, ils ont toujours l'impression d'avoir fait ce travail, mais ils ne l'ont jamais fait au niveau de profondeur qu'il faut. Et nous-mêmes, j'imagine que toi aussi, moi je le retravaille tout le temps, en fait.
Tous les mois, moi, je le refais.
Je reprends et je replonge dedans et je vais plus loin. Parce que pour moi, l'enjeu de ce travail de la clientèle idéale, c'est de réussir à comprendre mieux même que tes clients eux-mêmes ce qui se passe pour eux, quels sont leurs problèmes et les enjeux psychologiques qui viennent derrière. Tu vois, moi, une question que j'adore poser pour la clientèle idéale, c'est décris-moi toutes les raisons pour lesquelles tes clients idéaux n'arrivent pas à se coucher le soir et dormir la nuit. Toutes les peurs.
Moi, c'est ce qui les réveille la nuit. Tu vois, ça me fait la même question.
C'est la même chose, du coup, mais c'est jouer, voir ce qui leur fait peur, ce qui les angoisse, pourquoi ils souffrent. Et toutes ces questions-là, on ne se les pose pas. Quand on fait un persona marketing, ce qu'on apprend en école de marketing, c'est les personas.
Non, mais c'est une carte d'identité, ça en prend tout, ça ne sert à rien, tu vois.
Parce que tu peux prendre 50 personnes avec cette carte d'identité et elles n'ont pas la même vie, en fait. Et du coup, clairement, je te rejoins totalement sur l'importance de ce travail-là et de le faire et de le refaire et de le refaire et de donner un niveau de profondeur. que tu presque fais même pas sur toi.
Jamais.
Ouais. Et moi, j'invite les gens à le faire sur eux-mêmes aussi. Tu vois, moi, dans mes méthodologies avec le programme d'accompagnement qu'on a, il y a, avec tout ça, une énorme brique de réflexion sur soi en amont. Parce que moi, je considère que le développement personnel et la connaissance de soi, c'est aussi un outil incroyable de développement de son business. Et quand tu te connais toi parfaitement, et encore une fois, on n'arrive jamais au bout parce qu'on se découvre au fur et à mesure, mais quand tu as un vrai niveau de réflexion sur la connaissance de qui tu es et de ce que tu as envie de faire, c'est là où tu peux vraiment mieux identifier tes clients idéaux, mieux travailler sur ta vision, identifier ton pourquoi, etc. Et du coup, c'est genre au service de ça aussi, quoi. Donc les deux, je pense, jouent sur deux. C'est un équilibrage à trouver, en fait.
Tout à fait. Et comme toi, je pense vraiment que le développement personnel, c'est indispensable dans le business. Moi, j'ai toujours votre mindset, mais c'est genre le truc qui va faire toute la différence.
Complètement d'accord.
Tu peux avoir toutes les stratégies ou aucune stratégie marketing. Si t'as le bon esprit entrepreneurial, mais tu vas y arriver dans le nez.
Complètement. Ou en tout cas, tu vas beaucoup plus facilement dépasser les challenges. Et
tu vas trouver les réponses à chaque fois.
Du coup, la base concrète de ces deux premières séances, comme tu disais, c'est le why, le pourquoi. J'ai créé des contenus dessus, donc les gens qui ont écouté savent un peu de ce dont on parle. La vision, le client idéal. Et c'était quoi le truc que tu disais? J'ai oublié les...
Première séance, c'est vision, pourquoi, message, positionnement, etc.
Ah, le message, voilà, le positionnement, c'est ça.
Et le deuxième, mais moi, je connecte tout ça, en fait.
Ouais, bien sûr.
Voilà. Ça forme
c'est des noms différents pour une réflexion globale.
Voilà. Et le deuxième, c'est le client idéal. Donc ça, c'est les deux premières sessions imposées.
Ouais.
Après, à partir de ça, on va construire sur une trame. Alors, c'est une trame construction business qui est standard. Donc après, on va parler de l'offre, des tarifs, la stratégie de communication, la stratégie marketing.
Ouais.
Et au fur et à mesure de tout ça, plus on va progresser, plus je vais élargir en mode coaching pur et dur et je vais enlever du mentorat au fur et à mesure pour introduire du coaching.
Ouais, donc en fonction des problématiques que la personne rencontre sur le moment, tu l'aides à elle voir les solutions qui se présentent à elle mais qu'elle n'avait pas forcément vues.
Tout à fait.
Okay.
Et dès qu'il y a forcément un moment des blocages qui vont se présenter, par exemple, quand on va parler des tarifs, il y aura peut-être un blocage sur l'argent, sur la vision de l'argent, son rapport à l'argent. Et là, paf, on va partir en coaching pur et dur et on va exploser la croyance et on va continuer à avancer.
Ok. Du coup, là, c'est intéressant de mêler les deux parce qu'effectivement, ça permet à n'importe quelle personne de reposer toutes les bases qui sont parfois faites, entre guillemets, mais pas forcément bien faites en profondeur ou au niveau de profondeur qu'il faut. Et ensuite d'accompagner en fonction des évolutions personnelles.
Et tu sais, moi, je dis toujours à mes clients, mon objectif, number one, c'est que quand ils aient fini l'accompagnement avec moi, ils n'aient plus jamais besoin de revenir me voir.
Ouais, parce que ça, c'est un truc aussi que les gens ne savent pas dans la déontologie du coaching. C'est après un accompagnement, il y a une période transitoire où ils n'ont plus le droit de se faire accompagner par toi. Ou en tout cas, c'est ce que j'en ai perçu. Parce que l'enjeu du coaching, ce n'est pas de rendre les gens accros à l'accompagnement.
C'est de rendre les gens autonomes.
Mais de les rendre autonomes complètement. Parce que clairement... tu vois, moi, je suis beaucoup de David Laroche, par exemple. Encore une fois, les gens en pensent ce qu'ils veulent parce qu'on a tous des gens qui nous
parlent. Moi, je ne suis pas très fan. Je respecte, mais je ne suis pas très fan.
Donc, il y a des gens qui ne sont pas fans, il y a des gens qui sont plus fans. Moi, j'adore son contenu. Et tu vois, il y a des gens qui vont à ses séminaires, etc. Et encore une fois, il a le même message. Il dit, genre, il veut rendre autonome, etc. Parce que ça fait partie de ce que c'est le coaching. Mais il y a des gens qui, eux-mêmes, se rendent accros. C'est-à-dire qu'ils ont énormément de savoir. Mais ils reviennent en séminaire, ils reviennent en séminaire, ils reviennent en séminaire, ils reviennent en séminaire. Et il leur dit, même sur scène, les gens, genre, passez à l'action, quoi. Faites les trucs. Faites les trucs, faites les trucs, faites les trucs. Utilisez tout ce que je vous dis. Et encore, et c'est un truc qu'on disait justement dans l'épisode qu'on a enregistré dans l'autre sens juste avant, mais tout ce savoir-là, il ne sert à rien tant que vous ne l'appliquez pas concrètement, en fait. Et je vois beaucoup trop de personnes qui accumulent du savoir, qui cherchent la nouvelle conférence, le nouveau podcast, le nouveau machin, mais qui passent jamais concrètement à l'action derrière pour l'utiliser. Et on peut avoir le meilleur coaching du monde, si on fait rien concrètement, on revient à la séance d'après et rien n'est avancé et on n'avance pas, en fait. Et je pense que trop de gens se disent « Ah, c'est la faute du coach parce que j'ai pas eu de résultat », alors qu'ils ont pas concrètement pris leur stylo, leur carnet, leur ordinateur pour intégrer tous les trucs et vraiment passer à l'action de manière massive. Bref, encore une fois, je divague à chaque fois.
Non, mais c'est hyper intéressant.
J'adore ces sujets.
Je travaille énormément, moi, sur cette responsabilisation et ce passage à l'action. Je dis déjà, dès l'entrée de jeu, séance découverte, ok, Ferdinand, sache qu'avec moi, c'est 1% du travail. 99% du travail est fait entre les séances de coaching. Et si la personne, parce qu'elle a des actions très précises à mettre en place, qu'on décide ensemble, c'est pas moi qui dis, on décide ensemble, si elle vient la séance d'après que les actions n'ont pas été faites, elle va se prendre un coup de gueule.
Ouais.
Clairement.
Du coup, je veux juste reprendre avant d'arriver. Je trouve qu'on a donné une bonne vision de coaching, ce que c'est, et pour que les gens comprennent mieux. J'aimerais bien revenir sur les prochaines étapes. Donc, on a défini la base là qu'on a dit juste avant.
Tout à fait.
T'as dit juste après, on arrive sur offre, tarif, communication, marketing.
Ouais.
Je sais que par exemple, toi, sur ton site, ton lead magnet, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est un lead magnet, c'est t'arrives sur un site, on te propose du contenu gratuit en échange de ton adresse mail.
Fais gaffe parce que je l'ai changé ce matin. Alors.
Ah. Oh, tu m'as court-circuité ma recherche journalistique.
Ah, je suis désolée pour ta magie.
Jusqu'à hier, ton lead magnet, c'était une liste de 100 différentes manières pour développer ta clientèle et trouver de nouveaux clients. Ma question, du coup, c'est par rapport... Encore une fois, bien sûr, c'est complètement individuel, ça change en fonction de tout le monde, j'en suis conscient. Mais si toi, t'avais genre le top 3 de tes manières préférées à toi pour développer sa clientèle quand on est indépendant, et que tu les partages, et ça fait partie, on va dire, de cette une de ces briques d'accompagnement au début, ce serait quoi, c'est ton top 3 des manières de développer sa clientèle?
J'ai le droit d'en dire 3,5.
T'as le droit d'en dire 3,5.
Ok, je t'explique
après. Plus on sert les clients, plus on sert les gens qui nous écoutent, mieux
c'est. Je t'expliquerai le demi après. Okay. Donc la première, c'est pour moi, ma stratégie préférée, c'est la création de contenu.
Okay.
Donc moi, c'est ce que j'appelle la prospection indirecte, parce que c'est quand même tranquille. Et c'est vraiment, c'est sympa à faire. Moi, j'adore ça. On partage, on construit une communauté, on donne de la valeur.
Okay.
Donc voilà, ça, première stratégie de prospection.
Je peux rentrer dans le concret de chaque
Bien
fois.
Bien sûr.
Cool. Stratégie de contenu, c'est un sujet qu'on a déjà vu sur le podcast, mais j'ai juste une question à poser, c'est si je suis Ferdinand et que je ne suis pas un marketeur qui crée du contenu, mais une expertise ou le contenu, je sais pas ce que c'est quoi pour toi les premières choses que Ferdinand, qui est dev web en plus, donc parfait, c'est quoi les premiers contenus qu'il doit créer, Ferdinand?
Eh ben justement, c'était mon et demi.
Okay.
Donc, c'est pas vraiment une stratégie de prospection en soi, mais c'est une stratégie qu'il faut faire pour prospecter, c'est la définition du client idéal et le travail du client idéal. Parce que c'est ce travail qui va nous permettre de savoir ce dont il a envie et ce dont il a besoin.
Mmh.
Et un bon contenu, c'est qu'on donne d'abord à la personne ce dont elle a envie, en instillant dedans ce dont elle a besoin.
J'adore, j'ai plein de citations sur le truc. Mais j'adore cette réflexion-là, effectivement, de dire les gens, nos clients, ils vont acheter ce qu'ils ont envie.
Mmh, exactement.
Si les gens qui nous écoutent, si vous mangez de McDo, c'est clairement pas ce dont vous avez besoin. Par contre, c'est ce dont vous avez envie.
Exactement.
Et donc, c'est ça que vous achetez. Mais pour nous, d'intégrer cette réflexion, il faut qu'on vende ce que les gens ont besoin, parce que c'est ça qui crée les vrais résultats pour nos clients et qui font qu'ils vont revenir. Mais on ne peut pas leur vendre directement. Donc, il faut vendre ce qu'ils ont envie, ce dont ils ont envie, comme tu dis, et l'emballer dans ce dont ils ont besoin. J'aime bien cette
image.
Non,
c'est l'inverse. Il faut leur vendre ce dont ils ont besoin et l'emballer dans ce dont ils ont envie.
Oui, pardon, à chaque fois, je me trompe sur ces trucs. Oui,
moi
c'est
aussi, t'inquiète. Mais tu vois, le freebie dont tu parles tout à l'heure, c'est exactement ça.
Ouais.
Parce que moi, tous les gens, Ferdinand, il vient me voir, il me dit « Je veux trouver des clients. » Et donc, donc il me dit « J'y arrive pas,
Ok, bah tiens, un document, 100 plus manières de trouver des clients, télécharge-le. Et...
105 manières de trouver des clients. Oui, mais c'est pas ce que je voulais, tu vois. Ah, bah maintenant, on va pouvoir travailler ensemble.
Tu viens vraiment cette voix, ton aspirateur, Ferdinand?
Pire.
Pardon.
Donc voilà, donc c'est typiquement ça, en fait. On crée d'abord les contenus dont les clients idéaux ont envie, et après, dedans, on va insister au fur et à mesure ce dont ils ont besoin pour leur vendre après ce dont ils ont besoin.
Okay.
Moi, je l'analyse comme ça.
Ok, du coup, ce que Ferdinand devrait faire en premier, c'est échanger avec les clients avec qui il veut vraiment travailler, comprendre leurs envies et leurs besoins,
exactement,
et créer du contenu qui répond à leurs envies.
Exactement.
Okay.
Comme ça, quand le client idéal il va tomber dessus, il va dire « Ah ouais, c'est pile poil ce qu'il
me faut.
Mais c'est qui ce mec qui est dans ma tête ?» Et là, il va creuser et tout. Et c'est vraiment ce qui va différencier Ferdinand de tous ses clients.
Trop bien.
Quoi.
Donc ça, c'est la première stratégie pour avoir des nouveaux clients. Voilà. Création de contenu sur les envies et besoins.
Ça fait 1,5.
Donc ça fait 1,5. Ok. Plus que 2. Deuxième.
Ok. Le deuxième, c'est tout bête, mais c'est faire fonctionner son réseau et le bouche à oreille.
Ouais.
Tout simplement. Surtout si Ferdinand est freelance, le bouche à oreille, c'est ce qu'il y a de plus puissant.
Moi, c'est un truc que je dis aussi. Un exemple que j'utilise très souvent, c'est on le sait pas, ou on se le dit pas au début, mais ça se trouve, le frère de notre oncle a une boîte qui correspond exactement à ce qu'on voudrait faire.
Exactement.
Et tant qu'on n'en parle pas, même à notre réseau proche, on peut pas le savoir. Et du coup, un des premiers exercices que j'invite les gens qui me suivent à faire, c'est de faire un bon gros mail où on dit voilà. Je me lance en freelance. Voilà ce que je fais. Voilà des exemples de ce que je fais. Voilà pour qui j'ai envie de le faire. Est-ce que tu connais quelqu'un qui fait ça ou qui peut potentiellement connaître quelqu'un qui fait ça? S'il te plaît, forward ce mail à une personne. Et si tu t'envoies ce mail à 50 personnes, ça se transforme en 100, puis en 200, et tu peux potentiellement trouver tes trois premiers clients comme ça, avec un seul mail que tu envoies à différentes personnes. Donc clairement, ça, je trouve, c'est vraiment un truc qu'on sous-estime énormément, mais qui peut faire une énorme différence, et vraiment apporter des clients assez rapidement quand on se lance au début.
Puis c'est facile à faire, parce que généralement on a très peur de la prospection, parce qu'on se dit, je vais devoir appeler les gens au téléphone et leur, les supplier de me prendre et de me donner c'est leur clair. Argent, tu vois. Mais c'est pas clair. Ça, et c'est simple d'envoyer un mail à sa tante en disant salut, comment ça va, voilà mon nouveau projet.
Quoi. Ouais, c'est clair, surtout que ces personnes elles vont avoir envie de nous aider, quoi.
Mais bien sûr, parce qu'elles nous aiment, normalement, tu vois.
C'est cool. Donc là on a deux stratégies, deux actions très concrètes. Ouais. Troisième stratégie,
donc là on est plutôt freelance, parce qu'effectivement il y a des stratégies pour tous les types d'entrepreneurs. Plutôt pour les freelances, moi je donne toujours comme conseil de beaucoup aller en networking avec d'autres freelances. Il ne faut pas regarder la compétition comme du je te lapide à vue, tu vois, mais plutôt comme des partenaires, des futurs contacts, et un freelance qui fait la même chose que toi, Ferdinand, et ben si un jour il a trop de boulot, ou qu'il a besoin d'un partenaire, ou qu'il accepte un job où il y a besoin de plus de monde, c'est toi qui l'as appelé en premier si tu t'entends bien avec.
Ce qui est clairement la réflexion des collectifs sectoriels ou par thématique qui se lancent, c'est de se dire on se réunit à plusieurs personnes avec les mêmes compétences pour délivrer sur des plus gros projets, échanger les contacts quand on a trop de travail et qu'on ne peut pas tout gérer, apprendre des uns des autres pour mieux progresser ensemble. Parce qu'encore une fois, je suis entièrement d'accord sur ta vision, sur cette vision-là. Moi, je trouve que la concurrence, c'est un truc qu'on crée nous-mêmes et qu'on s'invente, alors que en vrai, ça n'existe pas, surtout dans le freelancing.
Eh ben, je suis pas d'accord avec toi.
Ah, mais attends, on va
Ah ouais, trop cool, on va en parler.
Parce que, en gros, moi, je trouve que quand on est freelance, on a tous les mêmes enjeux, les mêmes envies, les mêmes ambitions, les mêmes problèmes. Et du coup, forcément, quand tu vas parler à quelqu'un, même s'il a le même métier que toi, l'idée, ça va être de s'aider à aller vers dans le même sens. Parce qu'en tant qu'être humain, on se connecte avec les gens qui veulent aller dans la même direction que nous, qui vont dans le même mouvement, qui ont les mêmes ambitions. Du coup, nous, par exemple, il y a une partie des gens qu'on a envie de servir avec nos activités de mentorat, de coaching, d'accompagnement, qui sont les mêmes personnes.
Bien sûr.
D'ailleurs, des gens qui écoutent ton podcast et le mien. Si j'étais dans la réflexion concurrence, ce serait complètement débile de ma part de t'inviter sur mon podcast pour que mon audience t'écoute. Et vice-versa, parce qu'on a enregistré un épisode avec moi sur ton podcast juste avant. Alors que moi, je ne partage pas du tout cette manière de voir les choses, parce qu'on a tous les deux un savoir, il y a des choses qui se recoupent, qui sont complémentaires. Mais on n'a pas du tout, on n'est pas la même personne. Tu es Aline, je suis Thomas. Je
ne Merci.
Tu es Thomas, non, je ne sais plus. Pardon. Mais je ne peux pas être une meilleure Aline qu'Aline. Tu ne peux pas être une meilleure Thomas que Thomas. Et il y a des gens ici qui nous écoutent. Tu es peut-être la meilleure personne pour eux, ou je suis peut-être la meilleure personne pour eux pour les accompagner, leur apporter ce savoir-là. Et on ne peut pas se concurrencer sur ça, en fait. Parce qu'il y a des gens, ils vont l'entendre de moi, c'est avec moi qu'ils vont vouloir travailler en tant que personne, plus que toi, et vice-versa. Et c'est pour ça que, dans ce sens, moi, je trouve que la concurrence, elle n'existe pas. Si tu arrives à créer une offre, une communication, un marketing, des services qui sont simplement une traduction de toi en tant que personne unique dans une activité pro. Et quand tu fais ça, personne ne peut te le voler, parce que personne ne peut être toi.
Tout à fait.
À ton tour. Bon courage.
Non, mais en fait, je suis d'accord avec toi, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le sens que tu mets dans un mot. Moi, effectivement, quand tu vois la concurrence avec la manière dont tu la vois, je suis d'accord avec toi, mais à 100%, je ne peux pas dire le contraire. Pour moi, la concurrence, c'est quand une personne, elle va acheter un produit et elle est intéressée. Mettons, la personne, elle veut se faire coacher en business. Elle va pas acheter deux coaching business, un chez toi, un chez moi, parce qu'elle nous adore tous les deux. Elle va nous mettre en concurrence. Ou peut-être, si elle est riche, tu vois.
En tout cas, sur 10 ans, peut-être qu'elle va prendre l'un puis l'autre.
Pour commencer, elle choisit son coach.
À un instant T.
À un instant T, elle va pas prendre ou une formation Pinterest ou n'importe quoi. Elle va pas prendre plusieurs formations ou plusieurs coachings chez plusieurs personnes. Parce qu'elle les kiffe toutes. Normalement. Donc, elle va faire un choix.
En tout cas, on leur invite à faire un choix, parce que ce n'est pas à leur service de prendre les 5 en même temps. Quoi.
Voilà, puis passer à l'action.
Et soyez focus.
Voilà, ne soyez pas non plus de passer à l'action et ne restez pas. Ouais. Bref, t'as conclu.
Donc, ils ont compris.
À ce moment-là, forcément, toi et moi, on rentre en concurrence.
Tout à fait.
Cependant, effectivement, c'est la personnalité qui va aider à faire le choix.
Ouais.
Donc, moi, c'est ça ma vision de la concurrence. C'est juste quand tu vends un même produit à peu près à une même cible, t'es en concurrence. Mais ça veut pas dire qu'on peut pas enregistrer des podcasts ensemble. Moi, je chipote avec beaucoup de mes concurrentes. J'ai aucun souci quand mon client va plutôt chez elle parce qu'il pense que c'est plus adapté à lui. Voilà, c'est juste ça mon avis. Donc,
clairement.
Je pense qu'il y a de la concurrence.
Du coup, je pense que l'état d'esprit où on se regroupe, c'est où on se reconnecte tous les deux, c'est un état d'esprit de l'abondance.
Oui.
C'est-à-dire qu'on se dit pas, il y a un gâteau là, on se partage le même gâteau, il faut réussir à prendre 3 parts sur les parts de l'autre. On se dit tous les deux que...
C'est pas une bataille, en vrai.
C'est pas un combat.
Exactement.
Encore une fois, nous deux, notre objectif final, c'est d'apporter le meilleur service à ces personnes-là pour qu'elles développent leur activité. Et du coup, on n'a pas à se battre, quoi. Parce qu'on veut la même chose. Effectivement, moi, je suis entièrement d'accord avec toi. S'il y a quelqu'un qui me suit, qui me dit j'ai pris un coaching avec Aline, j'ai kiffé son état d'esprit, j'ai discuté avec elle, c'était trop bien. Je vais lui dire génial, fonce, quoi. Enfin, continue et avance. Et j'espère vice-versa que tu diras
la même chose. Non, mais c'est pour ça, je pense qu'on est en concurrence, mais ça n'empêche pas qu'on fait tout ensemble. Je te kiffe, on fait des partenariats, voilà.
Et on apporte plus de valeur aux gens. Et...
Ben oui, mais parce qu'on n'est pas dans une mentalité de concurrence. Genre, si mon concurrent il book un client, moi c'est un client que je n'aurai jamais et il m'a bouffé une part de mon marché. C'est pas ça la concurrence.
Ouais.
Tu vois, la concurrence, c'est juste, il y a d'autres acteurs, on est tous là avec une vision plus ou moins similaire.
Par contre, du coup, ce qui est la réflexion de marketing intéressante qui arrive à ce moment-là, comme tu dis, c'est. Quand on est interrogé en même temps pour un même service, ou en tout cas similaire, sur les mêmes problématiques, comment est-ce que l'un et l'autre, et les gens qui nous écoutent avec d'autres personnes qui font la même chose, on peut créer de la différenciation? Un exemple que j'ai utilisé dans ma dernière conf, c'était tu l'as appelé comment? Ferdinand. Pour Ferdinand, imaginons qu'il est interrogé sur une prestation de développement web, et le client lui demande un devis. Si lui et les 5 autres personnes interrogées envoient juste un devis avec les mêmes lignes et les mêmes tarifs et juste une feuille blanche avec ça, qu'est-ce que le client regarde à la fin?
La personnalité.
Mais dans un devis, tu vois pas la personnalité. Ce que je veux dire, c'est que s'il reçoit 5 devis, la seule chose qu'il va regarder, puisqu'il a 5 devis, 5 pages blanches, il va regarder la dernière ligne, le prix.
Ah oui, d'accord. Je pensais que c'était tout au même prix, moi.
Non, c'est pas tout au même prix, pardon. C'est juste c'est 5 freelances à qui on demande un devis pour une prestation, ils envoient leur devis.
Oui, effectivement.
Quand on reçoit juste le devis, on va regarder le prix à la fin. Et on va se dire, bon, ben voilà, il y a 5 personnes, je vais prendre le prix. Le moins cher, parce que j'ai les devis devant moi. Et du coup, la réflexion que je trouve intéressante à ce moment-là, quand on sait qu'on est en concurrence, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour que la personne qui reçoit ces devis, et d'ailleurs, je vous invite à faire plutôt des propositions que des devis, et que le devis, ce soit juste le contrat qu'on signe à la fin. Mais comment je fais pour que ces personnes qui reçoivent ça voit plus de valeur de travailler avec moi, même si je suis plus cher, que de travailler avec les autres. Et c'est là où la concurrence, elle est à notre service, parce que c'est une réflexion de marketing, plutôt qu'une réflexion de « j'ai peur, il n'y a pas la place pour moi, machin ». Et là, du coup, c'est là où il y a des choses intéressantes à travailler sur la différenciation, et qui fait que la personnalité peut en être une, si toutefois on communique sur nous, nos valeurs, ce qui est important pour nous, notre méthode de travail, nos croyances... ce qui est important pour nous, etc. Tant qu'on communique pas ça, le client, il peut pas le voir, il peut pas choisir avec ça comme outil.
Tout à fait. Ça va être un élément différenciant.
Qu'est-ce que tu vois d'autre, toi, par exemple, avec l'expérience que tu as avec tes coachés? Si c'est un sujet qui est venu, c'est quoi les éléments de différenciation que tu verrais pour que les gens réfléchissent à ça pour mieux travailler sur leurs concurrents?
Mais typiquement, moi, un truc que je conseille toujours, c'est de faire un premier appel ou un premier rendez-vous avec le client avant même de lui proposer un devis. Même si la personne, même si Ferdinand, il doit se déplacer, ça le fait chier de prendre l'erreur et tout, il va quand même le faire. Pourquoi? Parce qu'il va aller chez son client et va faire parler son client. Il va lui faire parler de ce qu'il veut, ce dont il a besoin, les problèmes qu'il rencontre. Et on retourne sur le client idéal.
C'est ce que j'allais dire, c'est presque le truc que tu fais toi avec le score.
Exactement.
Genre, les gens qui nous écoutent, c'est Ferdinand, il faudrait qu'il fasse ça lui aussi avec ses clients, quoi.
Tout à fait.
On se dit c'est coaching, mais en fait c'est plus les outils pour comprendre le problème auquel on fait face et comment on peut y apporter une solution. Cette solution, ça pourrait être du coaching, comme ce que tu fais ou ce que je pourrais proposer, même si j'appelle pas ça du coaching. Mais ça pourrait aussi être un nouveau site, une nouvelle identité visuelle, une meilleure stratégie réseaux sociaux. C'est ça la résolution qui peut être proposée, quoi.
Exactement.
Donc ce truc du score, les gens peuvent l'utiliser et c'est ça, et déjà ça, cette écoute et cette compréhension. C'est un facteur différenciant parce qu'on va peut-être pas proposer la même chose que quelqu'un qui n'a pas écouté et pris ce temps-là.
Mais il y a deux choses hyper importantes qui se passent pendant ces entretiens, ces premiers entretiens. C'est que, un, effectivement, on va récolter des éléments d'information sur le vrai besoin du client qui vont nous aider à faire une proposition qui va se démarquer entre toutes. Parce qu'on n'aura pas juste répondu à un appel d'offres par mail, on aura vraiment cherché à comprendre le besoin derrière. Deux, on aura écouté le client. Et je trouve qu'aujourd'hui, on est dans une société où personne ne nous écoute vraiment.
Alors qu'on a juste envie de s'exprimer.
C'est un cadeau que tu fais à ton client quand tu vas l'écouter. Et il se souviendra que d'une chose, c'est comment il s'est senti quand il était avec toi. Et il s'est senti écouté, il a kiffé, il fait appel à toi, même si t'es plus cher.
entièrement d'accord avec ça. Dans le podcast que j'ai enregistré ce matin avec Aurore sur le customer care et la relation client, elle, il y a un truc qu'elle dit, et on a fait une conférence ensemble, donc je l'ai vu le dire en live, c'était l'écoute et écouter ses clients, c'est un avantage compétitif.
De ouf.
Et je trouve que c'est clairement l'incarnation de ça, ce que tu viens de dire, c'est que si t'es la seule personne entre tous les concurrents qui sont mis en concurrence sur ce projet, qui prend une heure de ton temps pour juste t'asseoir, poser des questions et écouter la personne parler, c'est énorme la différence que ça fait, quoi.
Je peux faire une recommandation lecture ?
Fais une recommandation lecture.
Moi, j'ai un livre qui m'a changé la vie, mais c'est l'incarnation de ce concept. Faut pas se fier au titre, mais c'est « Comment se faire des amis ».
Ah ouais, clairement, il est incroyable, ce livre. Il est incroyable.
J'avais vu, il y a quelques années, une nana le lire dans le métro. Alors, je m'intéressais pas du tout à tout le domaine marketing, etc. J'avais trop jugé la fille. Quand j'ai lu ça, c'est qui cette meuf ?
Non, elle a pas d'amis.
2 ans après, c'est moi qui le lis dans le métro. Et ça a changé ma vision. Ça parle que de ça, en fait. Ça parle de comment écouter les gens pour se rapprocher d'eux et pour qu'ils viennent nous aimer. Ouais.
J'ai ce bouquin dans un format pocket, genre petit comme ça.
Ah ouais, je savais pas que ça existait.
Il est minuscule. Je savais pas qu'il serait aussi minuscule quand je l'ai acheté. Mais
je vois trop ta tête.
Ah, mais j'étais choqué, j'ai reçu. Genre, c'était. J'avais fait plein. En gros, tous les 3-4 mois, je m'achète genre 15 bouquins parce que j'ai un rituel de lecture le matin, donc je lis beaucoup. Et j'avais perdu mon ancienne copie et je me suis dit, bon, faut que je la rachète. Et je l'avais vu sur Amazon et.
T'as pas compris.
Enfin, j'avais pas regardé les dimensions, tu vois. Donc je le reçois, il était minuscule. Mais par contre, la valeur ajoutée que ça a, c'est que à n'importe quel moment, quand j'ai envie de me replonger dans ces apprentissages, il est dans ma poche de manteau et je le sors à n'importe quel moment pour me replonger dans ces apprentissages. Et c'est vrai que ce bouquin, franchement, c'est une bible.
C'est une
bible. Ouais, voilà. Et je pense que la tare qu'on pourrait se dire, c'est « Ah, on manipule les gens grâce à ça », mais au final, c'est juste créer de la relation, en fait. Mmh. Et oui, quand tu crées de la relation, les gens, ils ont envie de venir dans ton sens. Et c'est pas, on pourrait l'utiliser à mauvais escient pour manipuler.
C'est des outils.
C'est des outils. Mmh. Une phrase que j'ai dit dans mon épisode sur le marketing, et je vous invite à l'écouter si vous ne l'avez pas encore écouté, c'est si vous jugez que ce que vous faites, c'est une mauvaise chose pour vos clients et l'humanité, clairement n'utilisez pas ces outils parce que c'est pas bon pour eux. Mais je ne pense pas que si vous lancez en tant que freelance, vous pensez que vous êtes une mauvaise nouvelle pour l'humanité.
Non, on pense pas, non.
Si vous pensez que vous êtes Hitler, clairement, allez vous enterrer, s'il vous plaît.
Ne lisez pas ce bouquin.
Ne lisez pas ce bouquin. Par contre, si vous pensez que ce que vous faites, ça a un impact et c'est vraiment au service des gens, clairement, lisez ce bouquin et utilisez-le. Et parce que vous êtes là pour servir, vous êtes là pas là pour leur faire du mal, quoi. Et ça, je pense, c'est une mauvaise croyance sur l'argent encore, qu'on est là pour voler l'argent, le prendre, on les manipule pour qu'ils achètent, parce qu'on n'est pas convaincu intimement que ce qu'on fait, ça aide les gens.
En tout cas, valeur de laquelle on a envie de...
Ouais, c'est clair.
D'adresser nos devis. Voilà, j'ai la même phrase.
Avant d'arriver sur les questions rituelles de fin de podcast, est-ce que tu as un dernier truc que tu peux dire ? Parce que moi, j'ai des convictions sur le coaching quand même et j'aimerais que tu nous partages les tiennes. Pour toi, l'enjeu pour un indépendant, comme nous en fait, parce que j'imagine que toi aussi, tu t'es fait coacher à un moment ou peut-être que tu te fais encore coacher et moi, c'est le cas. Pourquoi pour un indépendant, c'est important de se faire accompagner ?
Ok, bah effectivement, j'ai une vision très claire. Je pense que n'importe qui peut aller où il veut, tout seul, en se formant, etc. Sauf que ça va lui prendre le temps que ça va lui prendre. L'avantage de faire appel à un coach, c'est qu'on va aller beaucoup plus vite, beaucoup plus efficacement et en se fatiguant beaucoup moins. Donc en fait, c'est un capitalisme sur l'avenir, tout simplement.
Ouais, et but, c'est un investissement pour accélérer.
Exactement.
Et ça, je trouve ça intéressant aussi, cette notion d'investissement, parce que pour nous deux, pour avancer à la vitesse à laquelle on a envie d'avancer. Et je trouve aussi de manière plus alignée avec nous. Tu vois, l'enjeu pour moi que je vois dans le fait de se faire coacher, c'est tout ce que tu fais, tu as quelqu'un qui t'aide toujours à dézoomer pour que à chaque fois tu te dises, je veux que ce soit avec moi et aligné avec moi et cohérent avec mes valeurs. Et quand tu es tout seul, c'est beaucoup plus dur d'avoir cette prise de recul et cette réflexion.
Mais tu peux pas, t'as le nez dans le guidon ou dans ta merde au choix.
Ouais, voilà. Donc je trouve ça important pour ça aussi. Et du coup, ce que je me dis, c'est on devrait tous, à tout moment, avoir un espèce de mini-coach sur l'épaule.
Mais oui.
Et un truc que je recommande pour les gens qui n'ont pas forcément le budget ou qui ne sont pas encore prêts à investir là-dedans, c'est de faire ce que j'appelle du co-coaching. Et je le fais avec mon pote Romain Limois, que certains connaissent, qui écoutent. Et nous, ce qu'on fait ensemble, c'est tous les vendredis midi, on déjeune ensemble, on fait un point sur la semaine qui vient de se dérouler et sur nos enjeux, objectifs et actions clés de la semaine qui vient de se passer. Et du coup, d'avoir juste cette espèce de discussion, et comme on est tous les deux dans la même dynamique, se challenge, on prend les choses, on les mélange, on les retourne. On avance tellement vite. Et ça, c'est genre tous les deux l'un au service de l'autre, et c'est pas la relation coach-coaché. Même si, bien sûr, il a pas les outils de coaching, on développe tous les deux des choses là-dedans. Enfin, il a pas les outils de coaching parce qu'il est pas coach pro, entre guillemets, dans le sens où on a une formation coaching, moi non plus. Donc, c'est pas la même chose que d'avoir ton propre coach qui te coach et qui est dédié à toi. Mais c'est déjà incroyablement puissant, quoi. Parce que bah, tous les deux, on est intéressés par le domaine, tous les deux, on apprend, et toutes les semaines, je nous vois progresser dans notre posture. Lui, il fait de l'accompagnement en personal branding pour accompagner les gens sur leur marque personnelle. Et depuis qu'il a commencé à faire ça et qu'on a commencé à faire ce truc ensemble, j'ai l'impression qu'on s'est tous les deux améliorés à vitesse grand V parce qu'on le fait ensemble et qu'on s'entraîne toutes les semaines. Et on est tous les deux devenus meilleurs rien que dans la posture d'accompagnant, au-delà même de à quel point on avance dans notre business en faisant ça, quoi. Donc c'est ultra puissant, quoi.
C'est un très bon conseil qu'on peut donner à tous. Je le fais aussi avec 3 ou 4 personnes différentes.
Ouais.
Il y en a une que je vois toutes les semaines et les autres, c'est plutôt tous les 15 jours ou une fois par mois. Et pareil, à chaque fois, on échange, on se challenge, on se fixe des objectifs, on se fait des feedbacks. Ouais. Rien que ça, on avance hyper vite.
Ouais, c'est clair. Ouais. C'est un bon premier pas, je trouve, pour se lancer dans l'observation de la force de l'accompagnement.
Mm-hmm.
Peut-être pour tester avant d'investir. Parce que bien sûr, après ça... Ça joue pas sur les mêmes niveaux, quoi. Tu vas plus vite, je pense, avec quelqu'un dont c'est le métier, qui se dédie à ça. Tu vois, genre, nous deux, à créer autant de contenu et à nous intéresser autant à ce sujet, évidemment qu'on va avoir un plus grand impact que quelqu'un dont c'est pas le métier, qui s'intéresse moins et qui est dans son truc, que quelqu'un avec qui on fait du co-coaching. Mais c'est déjà un super premier pas et qui fait déjà avancer à fond, quoi.
Et qui nécessite zéro ressource financière.
Ouais, c'est clair. À part du temps ou aller se payer un déj avec la personne toutes les semaines ou un café, quoi.
Ouais, mais voilà, c'est un échange de bons procédés, ouais, quoi. Clair.
Pour venir du coup aux dernières questions de fin de podcast, petit rituel de sortie.
C'est parti.
La première, c'est en tant qu'indépendante, et tu peux répondre soit dans ton activité de coach business ou de retoucheuse photo avant, c'est quoi la plus grosse galère que tu as vécue? Et comment tu l'as dépassé?
Bah écoute, je vais changer parce que je parle beaucoup de la grosse galère que j'ai vécue en tant que retoucheuse photo. Je vais parler peut-être d'une que j'ai pas jamais évoquée en tant que coach business.
Ok.
Je pense que le plus gros challenge, c'était pas une erreur, c'est pas une galère. Je peux quand même y aller.
Oui, vas-y.
C'est la première fois que je suis montée sur scène pour parler. Mmh. C'était un rêve, mais alors putain le stress, quoi. Non, mais paralysé, puis tu bégayes, puis t'as les jambes qui tremblent et tu les contrôles.
C'était combien de personnes?
250.
Ah ouais.
Voilà, première scène, 250 personnes, c'était très bien, tout le monde était hyper bienveillant et tout, mais c'était très compliqué pour moi. Jamais de ma vie, moi je suis un peu une last minute personne, tu vois, jamais de ma vie je me suis autant préparée pour un truc, je me suis fait coacher pour ça justement, j'ai écrit tout mon discours.
C'était dans quel contexte, pardon?
C'était un événement qui s'appelle les rôles modèles féminins.
Ok.
Et en fait, c'est une journée entière où il y avait plein de conférencières et d'entrepreneuses qui intervenaient sur des sujets très précis. Donc moi, je parlais d'Instagram.
Okay.
Donc j'avais 25 minutes de speech devant les 250 personnes.
Bien.
Ouais, c'était super expérience. Bah, j'ai re-signé pour la deuxième édition là.
Cool. Bon, pardon, je t'ai coupé, mais.
Non, t'inquiète.
Donc t'es dans ton stress.
Je suis dans mon stress et je ne me sors pas de mon stress. Et j'ai envie de tout abandonner. Mais alors, combien de fois j'ai failli envoyer un message en disant je le fais plus et tout. Tu vois, c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure du stress. Et de à quel point ta vision, elle te motive à aller plus loin que les difficultés que tu rencontres. Bah là, c'est ce qui s'est passé, mais c'était passé juste. Et effectivement, c'est ça, c'est en se reconnectant à la vision et en disant, au bout d'un moment, j'y vais et bim.
Ouais, c'est important pour faire ce que j'ai envie de faire et ce à quoi j'ai envie de contribuer de faire ça.
Voilà, donc ça, c'était, je crois, vraiment, dans toute ma vie, toute ma vie tout court, le plus gros challenge que j'ai fait à date et que j'ai relevé et qui était compliqué pour moi, vraiment. J'ai pas l'habitude de travailler autant.
C'est intéressant.
Non, mais de répéter des trucs toute seule dans ma maison 4 fois par jour pendant un mois, j'avais jamais fait ça de ma vie, même pour mon bac. Hein.
Ouais, trop,
donc
trop.
Voilà.
Bravo du coup pour ça, pour cette réalisation, je veux dire.
Ah bah merci.
Et j'espère que la deuxième édition sera moins stressante, peut-être.
Mais j'ai l'impression que maintenant je suis vaccinée contre le stress entièrement et que je vais plus jamais stresser de ma vie.
Ah, c'est cool ça.
Enfin, parce que voir,
c'était,
mais...
c'était intense à ce moment-là.
Ouais, mais je pense que ouais, ça m'a vacciné, quoi.
Okay.
Baptême par le feu.
Trop bien.
Ça te va comme...
Ça me va très bien comme réponse et comme galère. Parfait. La prochaine question, c'est... Si t'étais face à Aline plus jeune, qui se lance, du coup, à son retour des États-Unis en tant que freelance, en tant que retoucheuse, c'est quoi le conseil majeur que tu te donnerais à toi-même avec toute l'expérience que t'as acquise depuis?
Je pense que ce serait arrête de te retenir, quoi. Arrête de la jouer petit. Voilà, ça va bien se passer, dans tous les cas, ça va bien se passer, alors vas-y, mets le paquet, quoi.
Comment est-ce que tu penses que tu jouais petit à ce moment-là?
Mais je pense que je contactais des clients, mais pas les clients que je voulais, parce que tu comprends, j'avais pas un portfolio assez important, et pas les bonnes connexions, et pas la bonne expérience. C'est des clients que j'ai fini par avoir sur le long terme, hein, donc il n'y avait pas de problème. Je pense qu'avec le recul, si je devais recommencer avec l'expérience que j'ai aujourd'hui, je les aurais contactés direct. J'aurais gagné 2-3 ans sur ma carrière.
Ah, c'est intéressant. Effectivement, je pense que avec le temps, on avance et on se rend compte que notre potentiel, on le voit grandir, alors que je pense qu'il est déjà potentiellement là au départ, mais on s'en rend pas compte parce que c'est pas notre réalité.
Exactement.
Tu vois, je pense que pour tous les deux, si on se reprojette au moment où on s'est lancé, moi, il y a 4 ans en freelance, toi, je sais pas combien il y a de temps.
Là, c'était il y a 4 ans aussi.
Voilà, ben, à peu près les mêmes temps. Si le premier jour où on se lance, on se dit, dans 4 ans, on va être sur scène à parler devant 250 personnes, parler d'un truc qui nous passionne, créer des formations qui vont vraiment transformer la vie des gens, etc. Si on se dit ça à notre nous d'il y a 4 ans, ben, la personne, elle dirait, mais t'es fou.
Ah, mais grave. Moi, je pense que ce serait mis sous le lit, elle aurait pas bougé là-bas.
Alors que si, à ce moment-là, on savait, genre, on avait déjà le même état d'esprit que maintenant, clairement, t'avances beaucoup plus vite, quoi. Et je pense que c'est ça aussi un truc important qu'apporte le coaching, c'est permettre aux gens d'enlever leurs œillères, de se rendre compte que ce qu'elles ont, ça a vraiment un gros potentiel pour servir leurs clients, pour aller plus loin et pour vraiment avoir l'impact qu'elles veulent avoir.
Tout à fait.
Et enlever les bandages, quoi. Et une phrase qui revient souvent, que je trouve, j'observe ça dans le coaching, c'est s'autoriser à. Et je pense que les gens s'autorisent pas assez à rêver grand, à faire les choses qu'elles rêvent de faire, mais elles se disent non, c'est pas un vrai rêve, qui suis-je pour vouloir faire ça?
Ouais.
Et je trouve que ça, c'est un vrai. C'est comme si elles avaient des poids sur les épaules et que tout d'un coup, avec une petite réflexion différente ou qu'elles se font accompagner, ça enlève les poids et la personne s'ouvre, quoi.
Ouais, c'est très bien résumé.
Et je pense que le coaching apporte vraiment ça. Moi, en tout cas, ça m'a apporté ça. Toi, ça t'a peut-être apporté ça aussi. Fait, mais ouais. Je vois beaucoup de gens qui se sont fait accompagner, à qui ça apporte cette espèce de... Tout d'un coup, on s'ouvre et on se rend compte. Mais ouais, j'ai le droit, quoi. Et je suis capable.
Je pense surtout qu'on se rend compte que les fameux poids dont tu parles, on pense que c'est la société ou les autres qui nous mettent sur les épaules.
Alors que c'est nous-mêmes.
Et c'est nous-mêmes. Et ça, le coaching, déjà, ça va être la première prise de conscience. C'est ok, c'est les poils, c'est toi qui te les mets sur tes épaules. Bah, tant que t'en as ta conscience de ça, comment tu les enlèves?
Et en fait, du coup, je me rends compte que les contenus qu'on crée, ça contribue à ça aussi.
Exactement.
Et les gens qui sont dans mon programme, par exemple, je me rends compte qu'en fait, tout avec des nuances différentes, mais c'est ça qu'elles me disent, en fait.
Mm-hmm.
Elles disent, tu vois, il y a une personne qui est venue pas sur le podcast, elle s'appelle Cécile, elle a écrit un article où elle disait la formation qui a changé ma vie. Et en fait, changer ma vie, ça veut tout rien dire. Mais quand tu lis la description, tu te rends compte qu'effectivement, c'est plus, je m'autorise enfin à construire une activité qui me ressemble vraiment et qui est une incarnation de moi qu'elle ne s'autorisait pas à faire avant. Intéressant.
C'est l'instant philosophique.
Ouais, c'est le moment de prise de conscience,
c'est
même
passionnant.
Pour moi. Quoi. Trop bien.
C'est passionnant.
Et du coup, la dernière question, pendant qu'on est dans cet espace un peu de réflexion profonde, quelle est la question, Aline, que tu as envie de poser aux gens qui nous écoutent pour que cette semaine, ils prennent un temps pour vraiment réfléchir à qui ils sont et leur activité et leur vie de freelance au sens général du terme?
À quelle caméra je peux parler là?
Celle-ci.
Ok, je vais parler à la caméra, c'est le plus simple. Aujourd'hui, tu veux accompagner le regard, c'est
vas-y,
ça
vas-y.
Donc aujourd'hui, vous avez besoin d'avancer dans votre business. Vous savez au fond de vous ce qu'il faut que vous fassiez. Généralement, on le sait tous, juste on ne fait pas parce qu'on a peur. Donc ma question pour vous cette semaine, c'est une fois que vous avez identifié cette grosse action dont vous avez peur, ça peut être envoyer un devis, recontacter un client, répondre à un client qui n'est pas content, gérer une situation. Quelle est ce que j'appelle la PPA que vous pouvez faire, la plus petite action que vous pouvez faire pour vous mettre en mouvement et aller droit au but? Non.
Nous, on utilise le PPP, le plus petit pas possible.
Eh ben voilà, c'est exactement la même
idée. Du coup, pour les gens qui nous
écoutent... Tu vois, quand je te dis que tu me copies tout le temps.
On est
je rigole.
Deux revers d'une même pièce.
Oh.
Pour les gens qui nous écoutent, je la répète.
Ouais.
Quand vous savez, et j'imagine que vous le savez pertinemment, ce que c'est la plus grosse action qui peut faire une différence sur votre activité, c'est quoi le plus petit pas possible que vous pouvez faire dès maintenant à la fin de cet épisode pour avancer sur le sujet.
Arrêtez de tourner autour du pot, quoi.
Go. Lâchez les chevaux et on avance, quoi.
Ouais, arrêtez de faire des petites actions qui servent à un peu, mais pas beaucoup. Ça, ouais, c'est, j'appelle ça la procrastination active.
C'est clair. Percer l'abcès.
Exactement.
C'est
parti. Allez, go.
Merci, Aline, pour toute cette discussion. J'espère que les gens qui nous écoutent ont tiré grosse valeur de ça. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur toi, interagir avec toi, te poser des questions, où est-ce qu'ils peuvent venir discuter avec toi et on aller plus loin, quoi?
Le plus simple pour moi, c'est Instagram.
Ok. Voilà. Donc, on va sur Instagram, c'est @demiboost. Ouais. Je mettrai le lien, de toute façon, dans la description. Et ils t'envoient un message et Yalla, c'est parti, on discute.
Exactement. Je réponds très, très vite sur Insta, généralement. Ouais, je suis un petit peu accro.
Je sais que t'es pas mal actif sur ce réseau.
Plus que sur Twitter, d'ailleurs. Mais...
Raison de ça, contexte, on s'était parlé pour la première fois sur Twitter.
Il m'a contacté sur Twitter, je sais pas ce qui s'est passé.
Je pense que du coup, moi, c'est plutôt... Non, c'est pas plutôt Twitter, c'est pas vrai, c'est Insta aussi. Merci Aline, je te souhaite une super journée et à bientôt sur le podcast.
Merci beaucoup Thomas.
Ciao.
Je suis vraiment, vraiment content d'avoir pu te partager cet épisode parce que je trouve que ça peint une belle image de ce qu'est véritablement le coaching. Notamment dans sa différence avec le mentorat ou la position de professeur, entre guillemets, en tout cas de sachant. Et vous êtes nombreux à écouter ce podcast, certains depuis le jour 1, à m'avoir demandé un jour ou l'autre si je faisais du coaching individuel et si je pouvais vous accompagner dans votre activité. Et ma réponse a toujours été la même jusqu'à présent, le présent étant tout début avril 2020. Et ma réponse est celle-ci. Je ne suis pas coach. En revanche, dans tout ce que je fais, j'applique beaucoup de méthodes qui me viennent du coaching pour accompagner au mieux les freelances qui s'engagent avec moi, dans mes formations, dans mes programmes. Et la raison pour ça, c'est tout simplement puisque j'ai observé en direct, sur moi et sur d'autres, la puissance de ces méthodes. Bien plus puissante parfois même que le fait de simplement dire quoi faire ou quand, comment et de partager du contenu. Et finalement, je me retrouve pas mal dans ce que propose Aline avec un mélange entre mentorat et coaching, et c'est ce que j'essaie d'appliquer dans mon approche et c'est ce que les gens qui sont dans mes formations et programmes trouvent. Mais comme je le disais, je ne suis pas, ni ne veux être, le coach des freelances. Je suis un freelance comme toi. J'ai aussi ma propre activité et mes propres clients. Simplement, j'ai décidé de dédier une part de plus en plus conséquente de mon temps et de mes ressources à permettre à d'autres freelances, comme toi, de se créer une activité qui soit réellement au service de leurs idéaux de vie. Je considère que si je n'ai pas appliqué sur le terrain à moi et mon activité ce que j'enseigne, je ne peux pas vraiment savoir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas et quelles sont les bonnes questions à se poser. Et c'est pour ça que j'ai envie de toujours conserver cette activité de freelance pour moi, mais aussi pour vous. Et pour toi qui m'écoutes, pour que je puisse te partager ensuite tout ce que j'apprends du terrain. Et pour aller plus loin dans cette mission qui m'anime d'accompagner les freelances sur leurs problématiques et sur le développement de leur activité avec toute cette approche et ces méthodologies-là, je suis en train de préparer en ce moment même de nouvelles choses pour voir plus grand, pour proposer des nouvelles facettes et des nouvelles solutions pour vous. Mais bon, pour l'instant, je m'en tiens à te souhaiter une merveilleuse semaine et à te dire à très vite sur Young, Wild and Freelance. Bye bye.